Fréquence Mistral. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'épisode 5 de ma chronique Une vie de langue. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir l'humoriste marseillais Mickaël Condo. Salut Mika.
Salut Rémi, comment ça va?
Ça va très bien, merci. Bienvenue à Fréquence Mistral.
Merci beaucoup.
Merci en effet d'avoir accepté cette invitation. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu particulier. On va certes parler de langue, de bilinguisme, mais aussi d'humour, de stand-up, un exercice que tu exerces depuis un certain temps. Donc rentrons dans le vif du sujet. Mickaël, est-ce que tu peux un petit peu te présenter? Quelle est ton histoire? Quelles sont tes origines? Et quelle langue parles-tu?
Ok, ben, je m'appelle Mickaël Condo, j'ai 39 ans. Je suis originaire par ma mère de Tunisie, juive de Tunisie, et du côté de mon père, je suis d'origine italienne. Je parle 4 langues couramment, je parle donc français, anglais, portugais et espagnol. Je maîtrise aussi quelques mots en hébreu, en italien et un peu en arabe.
Ok, donc c'est surprenant, tu as évoqué l'espagnol, le portugais, qui ne sont pas des langues familiales. Mm-hmm. Comment ça se fait que tu parles ces langues?
Alors j'ai beaucoup voyagé, j'ai toujours kiffé les langues. C'est vrai qu'à l'école, c'était mes matières préférées. Donc c'est comme ça que j'ai appris l'espagnol et l'anglais. Et le portugais, j'ai habité au Brésil en 2014. Donc c'est là-bas que j'ai appris le portugais, tout seul, en autodidacte. Grâce à une application d'ailleurs, une application gratuite qui est souvent utilisée pour apprendre des langues qui s'appelle Tinder.
J'adore. Génial, tu as vécu un an au Brésil?
J'ai vécu 6 mois au Brésil. Donc en 2014, je suis arrivé pendant la Coupe du Monde 2014 et je suis resté jusqu'au mois de décembre. Et en fait, je suis tombé amoureux du Brésil et tous les ans, j'y retourne pendant un mois en vacances. Donc depuis 2014, juste en 2021, à cause du Covid, j'ai pas pu y aller.
Okay.
Mais sinon, ouais, tous les ans, je passe un mois là-bas. Là, j'y étais d'ailleurs cette année.
Ouais, notamment pour faire du stand-up.
Pour faire du stand-up.
On va en parler, génial. Avant de rentrer dans l'aspect humoristique, est-ce que tu peux un petit peu me décrire ton rapport à ces langues? Donc, ça peut être un rapport affectif, un confort, une aisance, la fluidité?
Oui, bien sûr. Alors déjà, pour rebondir sur ce que tu disais juste avant, les raisons pour lesquelles je n'ai pas maîtrisé des langues familiales, je dirais. Pourquoi je ne parle pas hébreu? Principalement parce que les cours d'hébreu étaient le dimanche matin, et moi, j'ai fait du foot toute ma vie, et c'était en même temps que... c'était en même temps, il a fallu choisir.
Et priorité.
J'avoue qu'entre jouer au foot et faire des cours d'hébreu, bon... Voilà, j'ai choisi de faire du foot. Et l'italien, ben, mes grands-parents, enfin surtout ma grand-mère, parce que mon grand-père est décédé quand j'étais plutôt jeune, ma grand-mère avait plein d'expressions italiennes et du coup, c'est vrai qu'elles sont restées. Et ma grand-mère étant née à Marseille, mais issue de l'immigration italienne, il y avait vraiment plein de mots qui restaient. Et c'est vrai que ben, du coup, il y a des petits trucs qui me... Bon, c'est surtout des insultes, je ne vais pas te mentir.
Ouais. Mais quand même, c'est des petites références culturelles et familiales.
C'est ça.
Super. Et donc, par rapport à l'anglais, à l'espagnol et au portugais brésilien, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ces langues? Quel est ton rapport à ces trois langues?
Alors, maintenant, je dirais que je suis beaucoup plus à l'aise en portugais brésilien. C'est-à-dire que je pense que je suis vraiment complètement bilingue dans cette langue-là. Ce qui est assez drôle, d'ailleurs, c'est que quand tu parles portugais au Brésil, enfin, quand je parle portugais là-bas, je suis vraiment à l'aise, mais quand je suis au Portugal, par contre, c'est un autre monde. C'est-à-dire que le portugais du Portugal, c'est une langue très compliquée pour moi de la comprendre. Tout d'abord parce que au niveau de la conjugaison des verbes, les Portugais conjuguent les verbes. C'est-à-dire qu'ils vont dire pour tu as, ils vont dire tu tens. Alors au Brésil, on dirait você tem, et au Brésil, on va conjuguer les verbes. Donc c'est vrai que c'est plus facile pour pratiquer cette langue. Et même, c'est une langue beaucoup plus fermée. Par exemple, pour dire passeport en portugais, on va dire pasaporte. Alors qu'au Brésil, on va dire passaporte. Tu vois, on va prononcer toutes les syllabes. Donc, ce qui va être plus évident à maîtriser. Voilà, ensuite, l'anglais, ben, principalement parce que j'ai beaucoup voyagé. Donc, quand tu voyages, c'est la langue du voyage. Et c'est comme ça que tu te débrouilles un peu partout. Et l'espagnol, ben, c'est, j'ai appris à l'école, ma sœur a vécu à Séville, donc je suis allé plusieurs fois la voir, je l'ai pratiqué là-bas, et j'ai eu une petite copine colombienne, donc je suis allé plusieurs fois en Colombie, et donc j'ai maîtrisé, enfin je parlais quotidiennement avec elle, et c'est comme ça que j'ai pu m'améliorer dans cette langue.
D'accord, c'est intéressant, parce que c'est vrai que le français, évidemment, ta langue du quotidien, tous les jours, tu parles seulement français avec ta famille?
Oui.
Oui, principalement français avec tes amis?
C'est ça.
Et pourtant, je sens un rapport quand même affectif, notamment avec l'espagnol et le portugais brésilien. Ouais. C'est assez intéressant. Génial. En dehors du stand-up, est-ce que tu as des opportunités ou des interlocuteurs avec ces différentes langues ici en France ?
En France, pas tellement. C'est vrai qu'il n'y a pas une grosse communauté brésilienne à Marseille, par exemple. Il y a quand même quelques soirées et tout, mais je n'ai pas trop fréquenté ce genre de soirées. Non, principalement avec mes amis au Brésil. J'ai beaucoup d'amis au Brésil et c'est vrai qu'on communique beaucoup bah, sur Insta, on s'écrit beaucoup, on s'envoie des messages, mais c'est la seule occasion que j'ai de pratiquer le portugais, malheureusement.
Ok, super. On va parler stand-up, parce que c'est pour cette raison que je t'ai invité. Est-ce que tu peux déjà me dire comment et pourquoi avoir commencé le stand-up ?
Ok, ben j'ai commencé le stand-up en 2022. Comment j'ai commencé ? En fait, ma sœur s'est mariée, elle a fait une cérémonie laïque et elle m'a demandé d'être le maître de cérémonie. Et moi, c'est vrai que j'ai un tempérament plutôt timide, réservé, et je ne m'imaginais pas être capable de faire ça. Et en fait, ben, j'ai animé la cérémonie laïque, ça s'est super bien passé. À la fin, plein de gens m'ont dit « Ah, mais tu devrais faire du stand-up et tout !» Moi, je dis « Mais jamais de la vie, je ferai ça !» Et l'idée, elle a quand même un peu germé dans ma tête et tout. Et en fait, j'ai rencontré une amie à moi qui connaissait une humoriste, qui m'a mis en contact avec elle. Je suis allé la voir plusieurs fois au Garage Comedy Club. Et ma pote a dit à cette amie humoriste « Ah, tu serais capable de le faire monter sur scène ?» Elle a dit « Oui, oui, je serais capable. » Et elle m'a dit « Et toi, Michael, tu serais capable ?» J'ai dit « Bien sûr que je suis capable. » J'étais pas capable du tout. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Et j'ai kiffé. Et donc voilà, ça fait 2 ans maintenant.
D'accord. Et comment es-tu venu à faire du stand-up en anglais, en portugais, brésilien ?
En fait, je me suis dit, vu que je maîtrise ces langues-là, ça peut être cool de le faire dans ces langues également. Donc j'avais peut-être 4-5 scènes en France, je suis parti au Brésil donc, comme tous les ans, et j'ai eu l'opportunité de faire une scène à São Paulo. Donc je suis monté sur scène et c'est vrai que c'est autre chose, en fait, c'est une autre expérience, c'est un autre exercice. Tout d'abord parce que quand tu fais du stand-up dans une autre langue, tu as l'impression que le temps, il est plus long quand tu es sur scène. C'est-à-dire que les mots te viennent moins facilement, même si tu maîtrises la langue, tu veux faire une interaction, c'est un peu plus compliqué. Et donc j'ai profité justement du fait de parler plusieurs langues pour faire cet exercice là-bas. Et c'est vrai que ça fait 2 ans... que je fais du stand-up au Brésil et maintenant je commence à avoir un réseau assez cool qui m'a permis cette année de faire 10 scènes dont des premières parties de Paulinho Serra ou de Rick Silveira qui sont des artistes assez connus à Rio de Janeiro. Donc c'était très cool et donc voilà, c'était une super expérience.
Moi, ce qui me fascine, c'est que le Brésil est un pays évidemment d'un continent différent. On n'a pas d'histoire coloniale commune, on n'a pas de langue commune, on a une culture très différente. Est-ce que tu as des anecdotes ou des idées à partager sur comment c'est d'être un humoriste français sur un plateau au Brésil ?
Ok. Alors, si je peux me permettre, la France a la plus grande frontière avec le Brésil. La frontière guyanaise, c'est notre plus grande frontière.
C'est vrai. My bad.
Non, mais t'inquiète. Mais en fait, le Brésil, c'est un pays qui a été colonisé par les Français. Donc, il y a une petite influence quand même française là-bas. Mais c'est vrai que nous, en tant que Français, on a une très bonne image au Brésil. C'est-à-dire que les Brésiliens adorent la France. Et en fait, c'est cool c'est ouf en fait d'arriver dans un pays et de te dire que les gens, ils adorent ta culture, ils savent quand même pas mal de trucs. Bon, ils ont quelques préjugés sur nous les Français, mais
t'as des exemples ?
Ils pensent qu'on se lave pas.
Le fameux
cliché du Français qui se lave pas, qui pue. Justement, c'est pour ça qu'en stand-up, je joue moi beaucoup sur ce cliché. Voilà, ouais. Je suis quand je fais du stand-up là-bas, je suis le gringo français au Brésil, donc je joue sur le cliché de « oui, je me lave comme vous une fois par semaine », tu vois, c'est un genre de blague que je peux faire là-bas. Mais on a, tu vois, on fait ces, je peux faire cette blague-là, mais il y a certaines blagues que je ne fais pas, c'est-à-dire que je ne parle pas de politique au Brésil. J'ai tenté 2-3 blagues de politique sur Bolsonaro, sur Dilma, qui était l'ancienne présidente. Et en fait, c'est hyper compliqué parce que si j'arrive en tant que gringo, que je me mets, je vais dire, pas au niveau, c'est pas exactement ce que je veux dire, mais la société brésilienne a un peu un complexe d'infériorité envers la société occidentale, envers les Américains, les Européens. Donc si j'arrive en tant qu'Européen et que je donne mon avis d'Européen sur la politique de leur pays, là, de suite, les Brésiliens, ils vont se fermer. Ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'il a ? Alors que si je fais des blagues bah, plus de gringo, en mode, je comprends pas ce qui se passe, pourquoi ça se passe comme ça, alors qu'en fait... En fait, ces blagues-là, tu peux les écrire que si tu comprends vraiment bien la culture locale. Tu peux les adapter justement en jouant sur ces clichés. Bah, c'est plus facile, je pense.
Bien sûr, ouais. C'est vrai que tu as évoqué la politique. Moi, je pense à tes réalités géopolitiques, la religion, le rapport homme-femme, la famille. Est-ce qu'il y a des sujets au Brésil qui, tu penses, sont adaptés à de l'humour ou au contraire tabous?
Je pense que la société brésilienne, ou l'humour brésilien, est plus ouvert, mais disons que la société brésilienne, c'est une société encore très macho, c'est-à-dire que c'est une société avec des influences très catholiques,
et les évangélistes aussi ont un point important dans la société,
voilà,
ouais.
Effectivement, donc c'est très macho, c'est par exemple quand deux personnes se mettent en couple, c'est toujours le mec qui doit demander à la fille. Il y a certains codes comme ça. Donc c'est pas très déconstruit, et donc l'humour reste quand même assez macho. Voilà, c'est vrai que c'est assez macho. Donc j'ai entendu des blagues qu'en France on pourrait absolument plus faire en ce moment. Quoi.
D'accord. Ouais, c'est intéressant. Tu fais aussi du stand-up en anglais?
Yes.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça?
Oui, bah alors j'ai fait mes premières scènes au Garage Comedy Club, à l'English Comedy Night, ici. Et en fait, je suis allé à Bali, aux Philippines, et donc j'ai joué en anglais sur des plateaux là-bas. Donc c'était assez rigolo parce que, alors à Bali, c'était full en anglais, mais aux Philippines, ce qui est ouf, c'est que genre les prémices sont en anglais,
ouais.
Mais les punchlines sont en tagalog, c'est-à-dire la langue philippine. Donc du coup, j'ai rien compris, j'ai absolument rien compris, tu vois, à ce qui s'est passé. Mais pareil, je suis allé avec mon texte un peu de gringo, brésilien, que j'ai adapté localement. Et c'était très cool, franchement, c'est trop rigolo de voir des plateaux de stand-up à l'étranger parce que c'est tellement différent de chez nous, tu vois. On était 20 humoristes, on avait 5 minutes chacun. Au Brésil, c'est un peu pareil. À Bali, c'était un peu... On était moins, on était 6-7, mais ouais, tu vois, c'est vraiment un défilé. C'est rigolo parce que c'est pas des pays où le stand-up est trop développé, tu vois. Nous, on a la chance en France d'avoir de voir que ça se développe de plus en plus, mais c'est vrai que là-bas, c'est pas encore le cas.
C'est fascinant la punchline en tagalog. Moi, ouais. Ça me fascine. C'est vrai que la règle d'une blague, la prémisse angle punchline. Comment est-ce que tu l'expliques que les punchlines étaient en tagalog?
Je sais pas, peut-être que ça faisait plus de sens, mais d'un autre côté, je me dis, pourquoi pas avoir fait une scène uniquement en tagalog, tu vois,
ouais.
Et c'est vrai que c'était ouf, parce que c'était hyper frustrant pour moi d'entendre ça dans cette langue-là, mais bon, c'était vraiment un bon moment, franchement, j'étais hyper, hyper content, c'était à Mani, dans une cave, enfin, c'était...
Ouais, des bons souvenirs.
Un bon souvenir.
Génial. Ouais, c'est vrai que je connais pas grand-chose de l'Asie, enfin, si ce n'est rien, je n'y suis jamais allé. Encore moins de la langue tagalog, mais je m'imagine qu'ils font des références peut-être culturelles ou voire des jeux de mots qu'une traduction anglaise ne permettrait pas d'en faire une punchline, peut-être. Peut-être. Super intéressant. Tu m'as aussi évoqué une scène à venir en espagnol.
Oui, ça sera le 8 mai au Comedy Club du Vieux-Port. Ce sera une scène en espagnol uniquement. Donc, c'est organisé par Luis, qui est un humoriste vénézuélien qui vit à Nice, mais qui joue un peu dans le sud de la France. Et donc, il m'a proposé de jouer en espagnol. Donc, je suis trop content aussi. Ce sera une quatrième langue que je pourrais faire sur scène.
Et comment est-ce que tu le prépares? Comment est-ce que tu te sens par rapport à cette scène qui arrive bientôt?
Ben, c'est un peu stressant parce que c'est vrai que je pense que des quatre langues que je parle, c'est l'espagnol que je maîtrise le moins. Mais je vais essayer de tout écrire, tout adapter. Je vais faire un mix un peu, je pense, entre ce que je fais déjà à l'English Comedy Night à Marseille et ce que je peux faire à l'étranger aussi.
Mm-hmm. Est-ce que tu parles souvent de tes origines dans tes sketchs? Est-ce que c'est un sujet pour toi?
Oui, c'est un sujet. C'est un sujet parce que... C'est assez... je trouve que c'est un sujet riche qui permet quand même de définir les personnes que nous sommes, qui nous influencent énormément. J'avoue que, vu le contexte en tant que juif, ouais, il y a certaines. On me conseille parfois de ne pas le dire, mais moi, j'ai aucun problème avec le fait d'en parler. C'est vrai que c'est un sujet assez, assez délicat. Il y a certaines blagues que, du coup, je ne peux pas trop faire. Mais aussi bien pour vexer aucune des. Aucune communauté, que ce soit la mienne ou. Ou les autres, donc ça reste assez délicat, mais oui, j'ai envie de développer un peu plus ce côté. L'humour fudge, il y a quand même beaucoup d'autodérision, et j'en faisais beaucoup plus au début que maintenant, mais c'est quelque chose quand même que j'ai envie de développer quand même.
Ouais, absolument. Mais c'est vrai, bon, on a un point en commun, c'est que je fais aussi du stand-up. J'ai commencé en septembre de l'année dernière, et une des choses qui m'a motivé à en faire ici à Marseille, c'est qu'il y a une scène anglaise, en effet, au Garage Comedy Club tous les vendredis soirs. Et pour moi, ça faisait un sens énorme de pouvoir parler de certaines choses dans ma première langue, qui est l'anglais. Et on me pose souvent cette question, c'est est-ce que tu traduis tes sketchs du français à l'anglais? D'ailleurs, j'ai envie de te poser cette question. Est-ce qu'au Brésil, tu traduisais tes sketchs? Est-ce qu'en anglais, tu traduis tes sketchs que j'imagine t'écris en français?
Alors, non, je ne traduis pas mes textes. Alors, ma première blague, mon opener, c'est une blague visuelle, donc oui, je la traduis. Mais pour le reste, non, au Brésil, j'ai écrit un set spécialement pour le Brésil, pour l'adapter justement à la culture locale. Parce que je pense que si tu arrives en France avec tes références au Brésil pardon avec tes références de français, c'est compliqué. Et puis je pense que il faut jouer sur la culture locale, vraiment sur les références locales, sur ce que tu as observé dans le pays pour justement mettre ce côté humoristique qui va faire sens pour le public.
Bien sûr, et je suis d'accord avec toi, je pense qu'il faut vraiment mettre le doigt sur les références culturelles, sur la culture locale. On peut parler le brésilien portugais, mais est-ce que tu sais te comporter en brésilien? Est-ce que tu connais des références culturelles? Est-ce que tu les maîtrises? Moi, c'est quelque chose que je me pose vraiment beaucoup cette question, parce que voilà, je fais des sketchs en français, je fais des sketchs en anglais, et je suis incapable, enfin je serais insatisfait si juste je traduis un sketch à l'autre. Et je vais donner un exemple, je reviens d'une semaine en Angleterre, où je suis allé voir ma famille. Et j'ai assisté à littéralement une embrouille entre mon grand-père et sa sœur autour du thé. Voilà, le thé en anglais, en Angleterre, the tea time, c'est une institution. Et c'est un peu le débat pain au chocolat, chocolatine en France, c'est est-ce que tu mets le sachet de thé avant ou après le lait? Voilà. Donc, pour nous les Français, ça fait pas forcément sens. En Angleterre, c'est un vrai truc, c'est un peu une running gag, tu vois. Et moi, j'ai assisté à une embrouille entre mon grand-père et sa sœur parce que mon grand-père a mis le lait avant et elle était là, c'est scandaleux, t'as ruiné le thé, enfin c'est nul. Et je me dis, si je parle de ça sur scène en France, je sais pas si ça va forcément prendre. En Angleterre, tout le monde a la référence de ce petit débat. Au même titre, voilà, le pain au chocolat, chocolatine en France, Ricard Pastis. Je pense qu'il y a des sujets, évidemment je peux en parler en anglais et en français, mais je n'aurai pas la même aisance culturelle et le public n'aura pas les mêmes références, tu vois. Si je parle de François Hollande sur son scooter en Angleterre, est-ce que ça va faire rire? Je ne sais pas. Si je parle de la famille royale en Angleterre, en France, les gens n'ont pas les mêmes références. Et je ne peux pas m'empêcher de croire qu'il faut vraiment dépasser cet aspect purement technique d'une langue et vraiment le voir dans un ensemble identitaire, culturel, historique aussi, tu vois. Et il y a des rapports de force que tu ne peux pas creuser, ou du moins moins bien creuser dans une langue ou une autre, tu vois. Moi, je sais que je parle de mes origines britanniques, de mes origines sud-africaines. Je me sens plus à l'aise de le faire en anglais, pas parce que j'ai plus de vocabulaire, mais parce que je suis tout simplement plus heureux ou content de le faire en anglais. Et on m'a fait cette réflexion, Rémi, on a l'impression que t'es plus à l'aise en anglais sur scène qu'en français. Je suis pas d'accord, je suis tout simplement plus content de parler anglais sur scène, et donc je pense que j'ai tout simplement un plus grand sourire, peut-être un langage corporel qui reflète ça aussi. Donc je pense pas forcément que ce soit une question d'aisance, mais plutôt de satisfaction personnelle de parler telle ou telle langue, tu vois.
Est-ce que tu penses pas aussi que notre personnalité, elle change selon la langue qu'on parle? Je pense que ça, c'est un débat qui mérite d'être posé, parce que je pense que moi, au Brésil, je suis une autre personne que moi en France, ou moi en Colombie, ou enfin encore en Colombie-Brésil, ça peut être... Mais tu vois, le fait d'être... Quand je suis au Brésil, je suis peut-être plus... Comme j'y vais seul à chaque fois, même si j'ai mes potes, je suis plus avenant, je vais plus être moins réservé, moins timide, je vais aller parler avec les gens. Je vais avoir plus peut-être confiance en moi parce que je me dis, bah, je vais parler une autre langue, les gens ils vont se dire quoi, ouais, c'est cool et tout, ils parlent une autre langue. En France, on en parlait hors émission tout à l'heure, le fait de parler d'autres langues, c'est un peu plus, c'est pas forcément valorisé. Tu vas parler d'autres langues ici, personne va se dire ah c'est trop cool, bravo, on va se dire ouais bah ok. Et c'est vrai qu'il y a ce petit côté quand même un peu peut-être bah, peut-être prétentieux hein, que j'ai là-bas où je me dis ben franchement c'est trop cool et en fait bah, le fait de faire du stand-up dans une autre langue moi ça me rend hyper fier de moi tu vois je suis hyper content de pouvoir le faire et j'aimerais développer ce côté tu vois où bah, je peux jouer plus souvent dans d'autres langues bon c'est un peu plus compliqué pour diverses raisons de faire ça parce que on n'a pas trop de scènes ici dans notre langue et aussi parce que si je développe je me suis dit tu vois sur Instagram par exemple développer le côté français portugais mais ouais enfin c'est des pistes en fait que j'ai mais pour le moment
non c'est ouais. Super intéressant. Est-ce que tu as prévu de retourner au Brésil bientôt?
Oui ben en fait je vais avoir 40 ans à la fin du mois de décembre donc tous les ans je vais à Rio pendant le carnaval. Là je pense que je vais y aller pour mes 40 ans et je resterai jusqu'à peut-être j'espère
41.
Jusqu'au carnaval. Ouais c'est ça. Jusqu'à toujours je vais déchirer mon passeport et... Non mais ouais ce serait vraiment un kiff pour moi de retourner vivre là-bas comme je l'ai fait. Bah c'est un pays super cool où les gens sont hyper hyper contents, hyper tu vois on a il y a quand même une les gens sont super positifs, c'est vrai que c'est chez nous en France on a peut-être perdu un peu ça, tu vois, le fait de vivre ensemble en France on malheureusement, je trouve qu'on a un peu perdu ça et c'est vrai qu'au Brésil ben il y a quand même une unité sur beaucoup de choses, sur la musique, sur ben, sur le foot, sur le sport, sur la manière de voir la société. Et voilà, c'est ce qui me fait vraiment kiffer là-bas.
Super. Avant de nous parler un petit peu de tes actualités de stand-up à venir à Marseille, je crois que tu as un son à nous présenter.
C'est ça. Donc, c'est une chanson qui s'appelle Amiga da Minha Mulher de Seu Jorge. C'est une chanson. Alors, au Brésil, il y a plusieurs styles de musique, hein, que ce soit samba, funk brésilien. Voilà, ça, c'est du MPB, ça veut dire musique populaire brésilienne. Donc, je vais le présenter en portugais maintenant.
Je t'en
prie.
Ça.
Então, agora a gente vai ouvir a música do Seu Jorge, que se chama Amiga da Minha Mulher, e uma música de MPB, que se chama Música Popular Brasileira.
Ela é amiga da minha mulher. Pois é, pois é. Mas vive dando em cima de mim. Enfim, enfim. Ainda por cima é uma tremenda gata. Pra piorar minha situação. Se fosse mulher feia tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não. Minha mulher me perguntou até qual é, qual é. Eu respondi que não tô nem aí. Menti, menti. De vez em quando eu fico admirando. É muita areia pro meu caminhão. Se fosse mulher feia tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não. O meu cunhado já me avisou que se eu der mole ele vai me entregar. A minha sogra me orientou. Isso não tá certo, é melhor parar. Falei, ela não quis ouvir. Pedi, ela não respeitou. Eu juro, a carne é fraca, mas nunca rolou. Oh, oh, oh. Falei, ela não quis ouvir. Não quis ouvir. Pedi, ela não respeitou. Ela é amiga da minha mulher. Pois é, pois é. Mas vive dando em cima de mim. Enfim, enfim. Ainda por cima é uma tremenda gata. Pra piorar minha situação. Se fosse mulher feia tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Yeah. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não. Não, não. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não. Minha mulher me perguntou até qual é, qual é. Eu respondi que não tô nem aí. Menti, menti. De vez em quando eu fico admirando. É muita areia pro meu caminhão. Se fosse mulher feia, tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia, tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração, yeah. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não. Não, não. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não. O meu cunhado já me avisou que se eu der mole, ele vai me entregar. A minha sogra me orientou. Isso não tá certo, é melhor parar. Ela não respeitou. Eu juro, a carne é fraca, mas nunca rolou. Oh, falei, ela não quis ouvir.
Não quis ouvir.
Pedi, ela não respeitou. Eu juro, a carne é fraca, mas nunca rolou. Não, não, não. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não. Não, não. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não. Não, não. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não. Não pego, eu pego, não pego, não pego, não pego, não. Não, 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 não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não. Não, não. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não. Não, 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 não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não. Não, não. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não.
Merci beaucoup, Mickaël, pour cette découverte. J'ai beaucoup aimé ce son. Avant de conclure cet épisode, je crois que tu as quelques petites actualités à nous partager.
Oui, donc je fais un spectacle de 30 minutes avec une autre artiste qui s'appelle Manon Rosa à l'Art du Théâtre le 9 mai. On fait donc 30 minutes chacun de blagues. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'elle aussi est polyglotte. Elle parle d'autres langues. Si vous venez, vous verrez quelle langue elle parle. Et donc voilà, j'organise aussi plusieurs plateaux à Marseille. Donc chez Lily, un restaurant à Bompard, au Perroquet Bleu à la Joliette.
Comment on peut les trouver ces plateaux ?
Sur Instagram, vous pouvez d'ailleurs me retrouver sur Instagram. Mon Insta, c'est MichaelKondo13, ça s'écrit Michael avec un H.
Super. Et si vous souhaitez venir voir du stand-up en anglais, sachez qu'au Garage Comedy Club, tous les vendredis à 19h, il y a un plateau 100% anglophone avec des humoristes français qui performent en anglais, mais aussi des personnes internationales, natives, non natives. Et franchement, on passe un excellent moment.
À chaque fois.
À chaque fois. Merci beaucoup, Mickaël.
Merci, Rémi.
Et à bientôt.
À bientôt.